Bonjour Marie.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Oui.
Bienvenue du coup chez Visa Palestinien pour un nouvel épisode. Du coup aujourd'hui on a le plaisir et l'honneur de recevoir Youssef Koussouma. Donc aujourd'hui on va traiter d'un sujet, mais on va en parler un petit peu plus avec lui, d'une question qu'on se pose souvent. C'est pourquoi la France est-elle si sioniste ? Et du coup on va un peu développer à ce sujet avec notre invité qui est en ligne. Salut Youssef.
Allô Youssef.
Bonsoir. Bonsoir à vous, chers amis de Marseille.
Comment vas-tu ? Il fait beau où tu es ?
On a une petite éclaircie dans le mauvais temps habituel. De temps en temps, on a des petites éclaircies.
Bon, bah super. Il faut savoir en profiter de ces éclaircies.
Ouais.
En tout cas, merci beaucoup de faire l'honneur du coup d'être présent avec nous sur cet épisode du coup
pour moi.
Chez Visa Palestinien. Peut-être rappeler à nos auditeurs auditrices du coup un peu le thème du jour et puis on va te harceler de questions.
On en a plein
pour toi. On sait que tu es prêt à répondre à tout ça. Alors aujourd'hui, on va parler un peu d'une question qu'on se pose, comme je disais tout à l'heure, c'est pourquoi la France est-elle si sioniste ? Donc c'est un peu une question un peu provoque, mais une question qui nous permet d'aborder un petit peu la question à la fois politique et à la fois médiatique et comprendre un peu les raisons historiques et du coup stratégiques du positionnement de la France sur la question du conflit israélo-palestinien. Et du coup, on va te poser plein de questions à ce sujet. Et avant du coup d'introduire cette thématique, est-ce que tu peux très rapidement nous parler un peu de toi ? Et surtout, j'ai une question qu'on se posait avec Marie. Quels sont les moments clés un peu de ta carrière qui ont un peu marqué du coup ton engagement pour la question palestinienne ? Est-ce que tu peux nous donner deux, trois moments, si ce n'est plus ?
Écoutez, bonsoir à vous, bonsoir aux auditeurs. Merci d'être à l'antenne et de votre invitation. Alors, moi j'ai une formation plutôt, anarcho-libertaire en termes politiques. Et la question de Palestine, dans mes dernières années, faisait partie du PAC de l'extrême gauche. Hein. On était pro-palestinien, bien évidemment, comme on était pour toutes les luttes de libération, etc. Mais c'est vrai que mon engagement spécifique pour la Palestine remonte au début des années 80, et précisément avec un événement qui va être déterminant. Alors non pas qu'auparavant, je dis auparavant, j'étais évidemment très sensible à cette question, mais avec d'autres questions. Et c'est vrai qu'à partir de cet événement que je vais vous relater, c'est vrai que je vais être très centré sur la Palestine. Et ça ne s'est jamais démenti jusqu'à aujourd'hui. Alors cet événement, c'est 1982, l'invasion du Liban par Israël. L'invasion du Liban par Israël, et du coup qui m'a évidemment marqué, comme toute une génération de militants, mais peut-être plus précisément en ce qui me concerne, j'ai été réellement choqué par l'attitude de la gauche. Alors de la gauche française, j'avais aucune illusion sur le Parti Socialiste, j'en dirai un mot justement, ça fait partie de la deuxième question, mais j'ai été choqué par l'attitude de nombreux, ce qu'on appelle des gauchistes, hein, donc des militants révolutionnaires qui normalement sont sensibles à toutes ces causes. J'ai été choqué par leur manque d'intérêt pour ce qui se passait avec cette invasion du Liban. On oublie que Beyrouth a été soumis pendant des semaines un bombardement d'une violence incroyable, comparable à ce qui se passe actuellement, mais d'une extrême violence. Et la solitude, alors la gauche libanaise était évidemment aux côtés des militants palestiniens à Beyrouth à ce moment-là, mais la solitude du peuple palestinien m'est apparue. Cette solitude extrême m'est apparue. Et ce départ des Palestiniens de Beyrouth m'a profondément marqué. Des images, pour ceux qui les ont vues ou qui peuvent les revoir, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement émouvant. C'est 10 000 combattants qui quittent Beyrouth et qui laissent derrière eux les camps de réfugiés sans défense. Ils y étaient forcés, c'était pas de leur fait, hein. C'était les conditions mises par Ariel Sharon pour qu'ils ne rasent pas Beyrouth. C'était les combattants palestiniens doivent quitter Beyrouth, ce qu'il appelait le nid terroriste. Et ces combattants palestiniens forcés de quitter Beyrouth, donc d'abandonner leur famille qui était dans les camps, pour partir pour un nouvel exil, après la Jordanie, en 70, ce nouvel exil, et surtout, ce qui va suivre, c'est-à-dire que les camps sont laissés sans défense, les forces françaises et anglaises devaient assurer la défense, la protection des camps palestiniens, face à l'armée israélienne et à ses supplétifs fascistes, des phalanges libanaises, et évidemment, les forces françaises et anglaises ont menti, n'ont pas du tout assuré, et elles se sont retirées des abords des camps, et elles ont laissé l'armée israélienne entrer dans Beyrouth, et avec leurs supplétifs fascistes, perpétrer les terribles massacres de Sabra et Shatila que l'on sait. Et c'est quelque chose ce qui m'a vraiment choqué, alors évidemment, de la part de Sharon, ça ne m'a pas choqué, de la part des régimes impérialistes occidentaux, ça ne m'a pas non plus choqué. N'oublions pas qu'on a la gauche au pouvoir en France, hein. Mais la prétendue gauche au pouvoir. Mais ce qui m'a choqué, je le dis et je répète, c'est l'attitude de ceux qui auraient dû normalement être vraiment s'insurger, l'extrême gauche française qui, à mon avis, est la gauche, hein, la gauche, disons, qui se dit en dehors de la gauche de pouvoir, disons, et qui a été extrêmement indolente. Voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment bouleversé complètement, cette solitude des Palestiniens. Et puis, à ce moment-là, je fais la rencontre d'un militant, et qui va, je crois, orienter beaucoup ma vie. C'est un militant libanais, qui est journaliste aujourd'hui, à Beyrouth, donc il se retrouve à nouveau sous les bombes, et qui va, je crois, on va être extrêmement proche, et on est toujours très très proche jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment, je crois, un des militants les plus proches de mon entourage. Alors, même s'il est à Beyrouth, et même s'il y a assez longtemps qu'on n'a pas pu se voir, pour multiples raisons. Mais voilà, et lui, à l'époque, était un combattant, il vient de sortir de Beyrouth, il vient d'échapper à la NAS, derrière Sharon, comme un certain nombre de militants, il est libanais, hein, et c'est un militant d'extrême-gauche, et il va dans une grande importance, il arrive à Paris, et il va déterminer vraiment, vraiment, je le dis, mon orientation politique, son prénom c'est Walid, hein. je peux même le citer, il s'appelle Walid Sharara, moi qui est journaliste dans un journal, un des principaux journaux libanais progressistes aujourd'hui. On lui envoie nos salutations. Il est rare qu'on puisse dire, voilà, il y a quelqu'un, et je crois qu'il m'a... Alors évidemment, je dis, il y a tout ce qui s'est passé auparavant, hein. L'été 82, un certain nombre de militants révolutionnaires en France, vous le savez, c'est le moment où les fractions armées révolutionnaires libanaises de Georges Ibrahim Abdallah vont mener un certain nombre d'actions. C'est le moment où un certain nombre de groupes révolutionnaires internationalistes, français ou pas, vont mener aussi des actions contre des intérêts, différents intérêts français ou liés à l'État d'Israël. Donc il y a toute une ambiance, hein, il y a toute cette ambiance de l'été 82. Et qui est importante. Et il y a, je le dis, ces massacres qui arrivent et puis cette rencontre. Et à partir de ce moment-là, je vais m'engager complètement dans la cause palestinienne. Voilà.
Merci beaucoup, du coup, pour ta réponse assez complète. Et c'est vrai qu'on demande souvent ça à nos invités, du coup, le point de départ un peu de la question palestinienne. On est tous un peu comme ça, où on a un point de départ, même si des fois c'est très difficile de poser un point de départ, mais on a tous un peu des moments qui nous ont très fortement marqué et jusqu'à encore à ce jour. Donc merci à toi, Youssef.
Oui, alors Youssef, du coup, on va partir un peu plus sur le sujet principal, c'est-à-dire la France et son rapport à l'État d'Israël. Du coup, la France, elle est souvent perçue comme pro-sioniste dans sa politique internationale. Et est-ce que ça a été le cas dès le début, dès 1948? Et est-ce que tu peux nous faire un petit résumé global, en fait, des politiques françaises?
Oui, c'est une question très intéressante qui n'est pas assez interrogée, hein, ou souvent de façon sommaire, incomplète. Mmh. Voilà. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a des raisons idéologiques, et puis il y a des raisons aussi, on va dire, circonstancielles. Voilà. Donc la France, de toute façon, est un impérialisme. La France est un impérialisme, c'est pas un simple petit capitalisme, et c'est un impérialisme donc qui est directement intéressé par la situation en Asie occidentale, ce qu'on appelait auparavant le Moyen-Orient, et qu'il faut un peu appeler maintenant Asie occidentale pour en finir avec cette hiérarchisation géographique introduite par les Anglais, hein. Extrême-Orient, Moyen-Orient, Proche-Orient. En Asie occidentale, pour des tas de raisons, l'impérialisme français est intéressé. La France fait partie du gang de brigands qui s'est partagé l'Empire ottoman au début du XXe siècle, hein, après la Première Guerre mondiale. En 1920, en se faisant accorder le fameux mandat sur la Syrie, pendant que le Royaume-Uni se faisait accorder le mandat sur l'Irak, et puis il y a eu un marchandage, finalement, la Palestine, est tombée dans les escarcelles anglaises. Donc la France, depuis ce moment-là, et même auparavant, c'est une puissance impérialiste, et même déjà auparavant, hein, donc elle est intéressée par le fait que en Asie occidentale, une région qui est très importante, pas uniquement, comme on le dit souvent, pour le pétrole. Oui, bien sûr, il y a le pétrole. Et les pétroles d'Irak, entre autres, avaient fait l'objet d'un marchandage entre les Français et les Anglais. N'en allons pas revenir dessus, mais au moment du partage, hein, au moment où ce gang, que j'appelle ce gang de voleurs, pour reprendre l'expression d'un professeur que j'avais eu à la fac, hein, et effectivement, la France tient à ce qu'au Moyen-Orient, enfin, comme on le disait, il y ait un État qui garantisse, ou une structure étatique qui garantisse ses intérêts en tant qu'impérialiste. Et l'État d'Israël, de ce point de vue, correspondait à cela. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle, effectivement, la France a toujours soutenu la création d'un État sioniste. Moi, je préfère l'appeler État sioniste, parce que l'État juif, même, c'est peut-être impropre de dire ça, hein, vraiment un État sioniste, tant il n'avait rien à voir, cet État, avec le judaïsme. Hein. C'est très récemment, après la guerre de 67, que des religieux se sont mêlés de soutenir cet État. Mais auparavant, ce n'était pas le cas. Donc, la France avait besoin, comme le Royaume-Uni, de quelqu'un qui garantirait les intérêts de ces deux puissances, a fortiori lorsque ces deux puissances sont forcées de quitter la région après la Seconde Guerre mondiale. On quitte la région, mais on laisse un des nôtres. Alors sans doute, c'est pas un si bon garçon que cela. Enfin, avec le temps, sans doute, c'est pas un si bon garçon que ça, mais c'est notre garçon. Hein. C'est notre boy. Hein, et il fait le travail. Et il y a cela. Donc, ce sont deux impérialistes qui ont intérêt à avoir sur place, et ça, selon la tradition impérialiste, comment une structure étatique qui la représente. Ça, c'est une chose. C'est un impérialiste de la France qui a besoin de soutenir l'entité sioniste, l'État d'Israël, en tant qu'État qui garantira ses intérêts. Alors, je ne vais pas revenir sur multiples problèmes. Il y a même eu des tensions parfois entre la France, fille aînée de l'Église, et État d'Israël, mais peu importe. La seconde raison, c'est une raison qui est propre à la France. C'est que la France est une puissance coloniale, et il faut savoir, et c'est-à-dire que ce colonialisme imbibe toutes les structures politiques de ce pays. Et une structure politique, notamment la gauche. Alors longtemps, la gauche a été quand même prépondérante en France. Alors avant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au Front populaire, c'est pas tellement le cas, mais il y a quand même une force politique de gauche qui est extrêmement importante, c'est la SFIO, qui s'appellera Parti Socialiste au Congrès d'Épinay en 1974. Avec Mitterrand, qui va fonder réellement le Parti Socialiste. Auparavant, on appelle ça la SFIO, Section Française de l'Internationale Ouvrière, et qui est le résultat de la scission de ce grand mouvement des socialistes qui existait jusqu'à la Première Guerre mondiale et dont le leader était Jean Jaurès. Après la Révolution d'Octobre, en URSS, c'est la création de la SFIO et de la SFIC. La SFIC qui deviendra le Parti Communiste, Section Française de l'Internationale Communiste, et qu'on appellera communément le Parti Communiste. Et la SFIO, Section Française de l'Internationale Ouvrière, deviendra socialiste. Aussi bien la SFIC, les communistes, dans un second temps, dans un premier temps, ils ne sont pas sionistes, Mais la FFIO, depuis, on peut dire, sa création, a toujours eu, une orientation sioniste. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Pourquoi ? Bah parce que là, c'est très important de comprendre, parce que ces socialistes sont prépondérants dans la gauche française et au niveau d'idéologie française pendant très très longtemps.
Ce que tu dis, Youssef, c'est que la gauche a toujours été sioniste.
Les socialistes.
Alors précisément les socialistes. Okay. La gauche communiste l'a pas été avant la Seconde Guerre mondiale.
Okay.
D'accord ? Mais elle deviendra après la Seconde Guerre mondiale, pour des tas de raisons sur lesquelles je pourrais revenir. Mais vraiment, vraiment, la gauche française, alors là, je parle bien de la gauche officielle. D'accord, hein.
Oui, bien sûr.
Je ne parle pas de petits groupes d'extrême gauche, etc., ou de petites. Mais la gauche officielle a constamment été sioniste. Pourquoi ? Bah parce que cette gauche, et je dis bien, les partis socialistes jouent un très grand rôle, et même le Parti communiste va avoir beaucoup de. Enfin, finira par devenir aussi. Eh bien, cette gauche française, elle est issue de la deuxième internationale. Je ne vais pas vous embêter avec eux. Mais c'est important de. La deuxième internationale, on l'appelle souvent la deuxième internationale, on l'appelle souvent l'internationale coloniale. L'internationale, vous savez ce que c'est, il y a eu la première internationale, donc il y a eu la réunion de tous les prolétaires, qui veut la réunion de tous les prolétaires du monde entier, hein, etc. Dans un premier temps, cette première internationale, les anarchistes sont prépondérants, et ensuite, lorsque Marx apparaît, Marx leur donne un petit peu la vedette, hein, finalement, les marxistes s'imposent. Et ensuite, on a, après Marx, Marx n'est plus là, on a la deuxième internationale, et cette deuxième internationale, on peut dire que tout ce qui peut plus ou moins se rattacher au corpus socialiste, hein, et ils sont vraiment prépondérants dans cette deuxième internationale. Pas uniquement les Français, hein, je parle de deuxième internationale, donc il y a des socialistes de toute l'Europe. Mais on est dans une internationale, on est en pleine période coloniale. On est en pleine période d'expansion coloniale à la fin du 19e siècle. Et l'idée coloniale est une idée qui est absolument partagée par tout le monde. Et y compris même par Karl Marx et Engels. Hein. On a un livre qui s'appelle Marx et Engels, écrit sur l'Algérie, qui est redoutable. En soutien au colonialisme. Parce que c'est quoi l'idée ? On pense que le colonialisme, c'est un pillage, mais le colonialisme va développer les forces productives, va transformer, si vous voulez, grosso modo, hein, des indigènes en ouvriers. Et en transformant des indigènes locaux en ouvriers, eh bien cela va venir renforcer les classes ouvrières, et ces classes ouvrières ensuite pourront faire la révolution. Voilà, c'est le schéma un petit peu, vous voyez, un petit peu simpliste. Mmh. Évidemment, ça ne se passe jamais, parce que dans les colonies, on ne crée pas d'industrie, en fait. On exploite les colonies de façon éhontée, et en fait, c'est du pillage pur, et quand bien même, quand bien même, ce serait vrai, ce ne serait pas acceptable, on est bien d'accord, hein, ce ne serait pas un argument, mais ça n'est même pas le cas. Hein. C'est que les colonies restent uniquement des zones de pillage, et les ouvriers qui dans les colonies, ce sont uniquement des ouvriers qui viennent des métropoles et qui effectivement ne partagent rien avec les indigènes et ne veulent rien partager avec les indigènes, si ce n'est profiter de leurs privilèges. Donc cette gauche française s'est vraiment bâtie sur l'idée selon laquelle le colonialisme, finalement, n'est pas une mauvaise chose. Et je dis bien tous les socialistes, hein, y compris Jean Jaurès, même si ensuite il a un petit peu se démarqué, bon, il n'a pas eu le temps d'évoluer, le pauvre, il sera assassiné avant. Mais au début de la guerre 14-18, mais tous les socialistes vont toujours développer l'idée selon laquelle finalement la colonisation, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et puis cette idée de civilisation, et c'est ça qui est absolument incroyable, cette idée de civilisation, cette gauche la partage. Alors ça se veut vertueux. Mais c'est quand même une vision, on va développer le pays, etc. Alors on ment, on pense qu'on va développer le pays, que cela va profiter à tout le monde, mais c'est un énorme mensonge. C'est vraiment le prisme colonialiste, européo-centré, et cette gauche française a toujours été européo-centrée, et je le dis bien, jusqu'à aujourd'hui, avec peut-être une inflexion, je tiens à le dire, en ce qui concerne l'AFI, c'est un fait, mais c'est vraiment, je crois, la première fois, on pourra en rediscuter, hein, qu'il y a une inflexion là-dessus. Cette gauche française a toujours été coloniale, et donc c'est tout naturellement qu'elle va accueillir le sionisme colonialiste qui se prétend aussi de civilisation, qui se prétend progressiste, parce que le sionisme, rappelons-le, se prétend de gauche. Hein, le premier sionisme, celui qui va s'imposer, se prétend de gauche, par rapport à un sioniste qu'on appelle l'extrême droite, moi ça me fait toujours un petit peu sourire quand on entend cela, mais bon, qui est le sioniste de Jabotinsky, dont le père de Netanyahou était le secrétaire d'ailleurs, le secrétaire particulier, qui est un sionisme encore plus rude, plus violent en apparence, alors que le sionisme de gauche de Ben Gurion, il met des formes, mais finalement, le résultat est le même. Le résultat est le même pour tous ces sionistes. Hein. C'est juste des façons différentes de finir par dominer et de coloniser. Donc, cette gauche française est complètement imbibée par cet esprit colonial où on pense vraiment. Et on serait étonné de voir que les débats qu'il y a à la Chambre des députés au début du XXe siècle, le débat qu'il y a à la Chambre des députés au début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale, hein, vous savez, il y a ces fameux débats, alors c'est sur le colonialisme en général, et on a un grand débat entre Jules Ferry et Clémenceau. Et, enfin, c'est Clémenceau qui répond à Jules Ferry, qui est une personne de gauche, alors c'est pas exactement socialiste, mais ça se rapproche, radical, et Jules Ferry qui prétend apporter la civilisation, disant que nous avons un devoir de civiliser les peuples inférieurs, etc., etc. Et qui lui répond en disant, en gros, mon petit bonhomme, tu racontes n'importe quoi, et ce que tu dis, en gros, est raciste, c'est Clémenceau, un homme de droite. C'est ça qui est absolument incroyable. Hein. Ces débats, vous le trouvez très facilement sur le net. Hein. Et donc, on voit même une droite qui est parfois moins coloniale que la gauche. Du coup, pour des tas de raisons.
Ouais. Mais voilà. En parlant de ça, pardon, Youssef, sur la, peut-être si on revient du coup sur la question du coup de la France et la politique étrangère, alors, du coup, le fait qu'elle soit sioniste. Ouais. Est-ce qu'on peut dire du coup qu'il y a une période entre 48 et 67 et après 67, du coup, une évolution d'un point de vue du positionnement de la France, on se rappelle tous du coup un peu de du positionnement de Gaulle, du coup, et des vives critiques qu'il avait émises, du coup.
Alors, tout à fait. Alors, tout ça va durer, et puis on a quand même des personnalités comme Léon Blum qui est très sioniste, etc., donc qui vont quand même influer. Et si on parle juste de la création d'Israël et de la France, à ce moment-là, eh bien, comment la France va apporter son soutien plein et entier au mouvement sioniste, pour des raisons de... Il y a Léon Blum qui pèse, certes, mais c'est d'abord la question coloniale, parce qu'on voit que l'État d'Israël pourrait être un allié pour que la France puisse conserver son empire colonial. On est convaincu que ce sont les Anglais qui veulent shipper l'empire colonial français du Maghreb à la France, et donc soutenir le mouvement sioniste qui, à l'époque, est opposé aux Anglais, hein, pendant une courte période, entre 45 et 47, hein, eh bien, on soutient aussi parce que ça va permettre l'alliance avec le mouvement sioniste va permettre à la France de garder le Maghreb, parce qu'on est convaincu que les troubles qu'il y a au Maghreb à l'époque sont orchestrés par les Anglais et la Ligue arabe. Et donc, comme les sionistes en Palestine combattent les Anglais et la Ligue arabe, eh bien, en s'alliant avec les sionistes de Palestine, on est convaincu que cela va permettre à la France de garder son empire colonial du Maghreb. Et c'est vraiment le calcul qui est fait et qui est explicite. Mais ce qui est étonnant, c'est que toute la presse de gauche soutient totalement le mouvement sioniste à partir de 1945, et sans aucune hésitation, y compris le Parti communiste, et de façon massive, je dis bien massive. Les Albert Camus, les Jean-Paul Sartre soutiennent massivement le mouvement sioniste. C'est incroyable. Alors, ensuite, on va avoir une inflexion, effectivement. Alors, Guy Mollet, socialiste, évidemment, c'est très important Guy Mollet, parce que c'est lui qui démarre la guerre d'Algérie, mais c'est lui aussi qui lance l'expédition de Suez en 1956 contre l'Égypte de Nasser, et il lance cette expédition avec le Royaume-Uni et l'État d'Israël. Hein, et ils attaquent tous les trois l'Égypte de Nasser, quand Nasser a nationalisé le canal de Suez, et en échange de la participation d'Israël à l'attaque contre l'Égypte en 1956, eh bien la France, que fait-elle? Elle fait quelque chose d'extrêmement grave, donc ce sont les socialistes, hein, Guy Mollet, la France offre à Israël le nucléaire, en échange de la participation d'Israël à l'attaque contre l'Égypte de Nasser. Donc c'est la France qui a permis d'introduire le nucléaire dans cette région du monde, et ça c'est extrêmement grave, on ne le dit jamais assez.
Ah, c'est important, hein, de le rappeler, tu fais bien.
Merci, bien sûr, parce qu'après ça va être la course nucléaire, et ce qui est actuellement, voilà. On a la parenthèse gaulliste. Effectivement, De Gaulle qui n'est pas anti-sioniste, en 1945-1946, De Gaulle est aussi sioniste. Hein.
Oui, complètement.
Mais pour les mêmes intérêts, pour les mêmes raisons, des raisons coloniales. Hein. Mais disons que De Gaulle en 1967, et aussi parce que De Gaulle a aussi, il sait qu'il a en face de lui aussi l'impérialisme américain, et pour des tas de raisons, il essaye de se démarquer un petit peu. De Gaulle va infléchir un petit peu, et certes, il ne remet pas en cause la création d'Israël, mais il remet en cause, bien sûr, l'occupation de la Cisjordanie et de Gaza. Et on a cette fameuse déclaration de De Gaulle, dans laquelle alors on dit que c'est un petit peu prophétique, le mot est peut-être fort, mais De Gaulle annonce ce qui allait se passer. C'est-à-dire que De Gaulle dit qu'effectivement l'occupation de la Cisjordanie et de Gaza par Israël va en retour provoquer à terme une résistance. Et cette résistance sera qualifiée de terroriste, etc. Mais ça n'empêchera pas que c'est une résistance. Alors, c'est important. Et donc, là, à ce moment-là, avec De Gaulle, les années De Gaulle, et en gros, ça va durer un petit peu jusqu'aux années 80, on aura une inflexion où la France défendra toujours à l'ONU la résolution 242 sur la création d'un État palestinien en Cisjordanie et Gaza. Ce sera encore le cas sous Mitterrand, mais avec, on va dire, peut-être moins de conviction. Mais c'est vrai que jusqu'à Giscard, on a une parenthèse, et même ensuite, ce sera un petit peu repris par Chirac, hein, quand même. Il y a cette tradition dont Villepin est un petit peu le continuateur lointain, hein, tout à fait.
Tu fais bien de le dire, on avait une question là-dessus, mais tu nous as devancé.
Voilà, et dont effectivement, alors ce ne sont pas des antisionistes du tout, ce ne sont pas des pros qui vous voulez, mais voilà, c'est la France. Alors, encore une fois, pour ses intérêts. Parce que voilà, grosso modo, l'idée de la France, c'est de... la France dit, enfin, à l'époque, le gaullisme pense que la France doit se démarquer des États-Unis. La France aimerait se démarquer des États-Unis, aimerait ne pas rester sous la coupe des États-Unis. Ça ne veut pas dire rompre. De Gaulle s'était retiré du commandement unifié de l'OTAN, pas de l'OTAN, on dit souvent de bêtises, il ne s'est pas retiré de l'OTAN, il s'est retiré du commandement unifié de l'OTAN. Et ce sera Sarkozy qui réintroduira la France dans le commandement unifié de l'OTAN. Mais De Gaulle pense que la France peut... être un pivot important et peut se développer en tant que puissance méditerranéenne en s'alliant au monde arabe. C'est ça l'idée. Hein. Si la France s'allie au monde arabe, eh bien, elle peut peser. Et elle a son empire colonial, même après la colonisation, vous l'avez compris, ce qu'on appelle la France-Afrique. Hein. De Gaulle est quand même parti dans la France-Afrique, avec les réseaux Focard et autres. Donc, en tout cas, il pense que comment la France peut tirer son épingle du jeu, et en s'adossant à l'Afrique française, même après la décolonisation, c'est encore le cas, hein, et le monde arabe, elle peut peser, hein, et apparaître comme étant une puissance. Donc, du coup, à l'époque, la France considère que la question de Palestine est une question centrale du monde arabe. C'est plus le cas maintenant. Je parle même des régimes, hein, je ne parle pas des peuples. Hein. Mais voilà, mais c'est la raison pour laquelle, entre autres, la France va faire sentir sa différence et va plaider pour le soutien à la 242, qui est la résolution qui clôt la guerre de 67 et qui postule la création d'un État palestinien en Cisjordanie et Gaza. Voilà, c'est pour ça que de temps en temps, on a des sorties par rapport à ça. Alors, ce soutien, c'est d'abord, donc de la France, en résumé, un soutien colonial. Et le fait, et moi j'inverse un petit peu les choses, le CRIF et autres, alors certes, le CRIF passe son temps, etc., mais c'est plutôt le contraire. C'est parce que le CRIF va dans le sens de la politique française que la France... c'est pas le CRIF qui impose à la France le soutien à l'État d'Israël, contrairement à ce que certains disent. Hein. C'est vraiment parce que la France a ses intérêts, hein, en tant que tel, et que le CRIF, bah, c'est un petit peu la mouche du coche. Le CRIF est convaincu que c'est grâce à lui, mais en fait, non. Et si les intérêts de la France changeaient subitement, la France cesserait de soutenir l'État d'Israël en dépit du CRIF, en dépit de ce que pourrait dire le CRIF. Donc, c'est important de le dire.
C'est important, et du coup, c'est-à-dire que tous ceux qui disent potentiellement que le CRIF, en tant que lobby, du coup, serait aussi celui qui, derrière, du coup, qui pousserait du coup, au rapprochement et aux intérêts du coup pro-israélien, toi, tu leur dis non, le jour où la France n'a plus d'intérêt du coup, dans cette région du monde, et notamment de ce côté-là, le CRIF n'aurait aucun poids finalement du coup dans son lobbying dans la politique étrangère française, c'est ça que tu dis?
Absolument, je pense la même chose pour les États-Unis. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que le CRIF ne peut pas avoir une action, on va dire, délétère concernant les militants de la Palestine. On est bien d'accord.
Oui, ouais, ça c'est autre chose encore, bien sûr.
Les poursuivants en justice, je dis c'est un petit peu la mouche du coche. C'est parce qu'il va dans le sens de l'impérialisme français. Hein, alors évidemment, le CRIF va poursuivre des gens, va dire qu'est-ce que ça veut dire, il y a ci, il y a ça, il va pousser le gouvernement français à réprimer, on est bien d'accord. Mais le fond de l'affaire, c'est parce que ça va dans un même sens. Le CRIF, en gros, donne une tonalité, il ne donne pas la direction. Hein, voilà, il va donner un côté un peu plus radical au sionisme français, hein, mais ce n'est pas lui qui décide. Vous voyez. Et d'ailleurs, si on va du côté du Quai d'Orsay, vous savez très bien que les fonctionnaires du Quai d'Orsay sont absolument ulcérés par l'attitude de Macron depuis un certain temps, hein, depuis cette année. Et quand Macron avait fait cette fameuse sortie sur laquelle, vous savez, il faudrait constituer une alliance sur le modèle de l'alliance qui a été constituée contre Daesh, etc.
Al-Qaïda, ouais.
voilà, ou Al-Qaïda, ouais. Voilà, eh bien les fonctionnaires du Quai d'Orsay, ça on le sait, étaient absolument outrés. On a même eu une lettre de fonctionnaires du Quai d'Orsay, d'ex-fonctionnaires du Quai d'Orsay, qui s'indignaient de cela. Donc on voit qu'il y a encore un petit peu des restes, vous voyez. Même au niveau de la diplomatie française, des gens qui disent c'est n'importe quoi. La France n'a absolument aucun intérêt à complètement s'aligner. Et puis surtout, elle rompt avec une politique traditionnelle. Et c'est pas à M. Macron de décider comme ça une rupture. D'autant plus, rappelons-nous, la France, fille aînée de l'Église, hein, la France avait des intérêts en Terre Sainte, etc. Donc c'est pas aussi simple, voyez-vous. Et puis en plus, ben, on le voit bien avec l'agression contre le Liban actuellement. La France qui a quand même des prétentions au Liban, le Liban qui est un pays très important en matière de francophonie pour la France et autres. Donc voilà, il y a des fonctionnaires au Quai d'Orsay qui aujourd'hui sont alignés. Alors malheureusement, ce n'est pas suffisant pour pousser à la rupture des relations économiques, enfin de l'accord d'association hein, avec l'État d'Israël, mais voilà. Voilà un petit peu.
Ok, bah écoute, merci beaucoup. On va revenir un peu sur l'époque un peu contemporaine, du coup, et ce qui va nous intéresser, c'est l'évolution un peu des partis politiques français sur le sujet. Peut-être Marie, une question sur...
Déjà, je voulais ton avis sur le revirement un peu de Sarkozy après les années Chirac, Giscard, Mitterrand, même s'il était un peu plus sioniste, mais voilà. Ouais. On a vu De Gaulle, Pompidou, Giscard, ouais, qui étaient plutôt pro-arabe, Mitterrand, qui était un peu tiède, et puis Chirac, un peu plus pro-arabe. Et Sarkozy, c'est vraiment le tournant du retour de la politique pro-sioniste. Et comment t'expliques, toi, ce revirement ?
L'atlantisme.
D'accord.
C'est que d'une façon générale, alors bien sûr, encore une fois... Alors, deux choses. D'abord, c'est la gauche qui a donné le ton, et le deuxième motif, c'est l'atlantisme. Alors, la gauche a donné le ton. La gauche, auparavant, faisait quand même contrepoids, la gauche, enfin, une certaine gauche, gauche, je raconte n'importe quoi, le gaullisme. Le gaullisme traditionnel faisait quand même qu'on hésitait, la France hésitait à s'engager, à être... plus sioniste que parfois même les sionistes, on va dire. Mais dès l'instant où les gaullistes ont fini, si ce n'est quelques gaullistes comme Chirac et autres, d'une certaine façon, la gauche française a converti la droite gaulliste à un sionisme plus radical. Vous voyez ? Avec Mitterrand, on a vraiment un sionisme qui va commencer à s'étaler. Même si Mitterrand est allé à la Knesset, même si à la Knesset il avait parlé d'un État palestinien, etc., etc., il ne va jamais prendre les mesures. Hein. Il va, et puis on voit bien ensuite Mitterrand qui va s'aligner sur la politique américaine lorsqu'il s'agira d'envahir l'Irak, hein, au début des années 90, la guerre du Golfe. Donc on a là une gauche française qui va devenir de plus en plus atlantiste. En fait, elle l'a toujours été. Elle a toujours été, et c'est comme si l'arrivée de Mitterrand au pouvoir dans les années 80, ça avait été le retour de Guy Mollet, vous voyez. C'était une période où la France était extrêmement atlantiste, hein, faut avoir ça en tête. Et même auparavant, rappelons-nous que le plan Marshall, c'est un alignement sur les États-Unis, hein, surprend. Et qui négocie le plan Marshall pour la France, c'est Léon Blum. Léon Blum, qui était une figure politique de gauche, et très sioniste, hein, par ailleurs. Et donc, on voit, c'est comme si avec Mitterrand, la France avait retrouvé une sorte d'impensée coloniale, et du coup, avec les socialistes. Et du coup, eh bien, comme on n'a plus tellement de gaullisme, comme le gaullisme s'essouffle, etc., ben finalement, la gauche française va faire qu'on va avoir une droite qui va être de moins en moins complexé par rapport à l'alignement sur les États-Unis. Parce que ça va ensemble. Hein. Le soutien aux sionistes, le soutien aux États-Unis, je l'ai dit, hein, c'est vraiment l'atlantisme. Hein. C'est-à-dire le fait qu'on s'aligne un petit peu sur les États-Unis. Finalement, on oublie la construction européenne, on oublie le gaullisme qui voulait que la France devienne un petit peu une puissance un petit peu indépendante. Alors, on oublie absolument tout. Et cela tient au fait que d'une politique, c'est le résultat aussi d'une politique états-unienne de plus en plus agressive, qui a réussi à reprendre la main sur l'Europe complètement. Et on le voit avec ce qui se passe en Ukraine, hein, où finalement l'Europe qui aurait pu jouer un rôle d'intermédiaire entre les belligérants s'aligne complètement et de façon extrêmement grave d'ailleurs, alors qu'elle aurait pu jouer un autre rôle. Donc du coup, eh bien, cette gauche française va aussi faire que la droite va finalement perdre ses derniers oripeaux gaullistes. Et Sarkozy, c'est cela, c'est-à-dire que ça va avec l'atlantisme. Sarkozy devient atlantiste, d'ailleurs c'est pas hasard s'il réintroduit la France dans le commandement initié de l'OTAN, etc. Et ils rompent avec les derniers feux du, les derniers feux du gaullisme. Hein, et du coup, il y a une sorte d'union sacrée de ce point de vue du soutien aux États-Unis, hein, et du soutien donc à l'État d'Israël. On peut dire que ce n'est plus un sujet de dissension entre la gauche et la droite, alors que ce le fut pendant un certain temps.
Ok. Mais on a parlé de la gauche, on a parlé de la droite. Peut-être du coup de parler du mouvement actuel et du président actuel, du coup de son positionnement, alors qu'il semble être très clair, mais parsemé parfois du coup de petites touches. Du coup, il tente soi-disant de recadrer du coup Benjamin Netanyahou du coup sur la question de l'ONU ou sur d'autres sujets. Du coup, comment toi tu analyses du coup la position d'Emmanuel Macron sur la question palestinienne, et est-ce que tu es beaucoup plus catégorique que certains qui diraient qu'il serait une position beaucoup plus ambivalente sur le sujet?
C'est-à-dire ambivalente qui...
Bah, qui soufflerait le chaud et le froid, un petit peu de rapprochement parfois sur la question palestinienne, et puis pendant quelques mois, du coup, pendant cette période de génocide, il a soutenu incontestablement du coup Israël jusqu'à du coup un peu récemment, où il a posé des petites nuances et des bémols. Toi, c'est quoi oui. l'analyse que tu fais du coup hein?
Oui, tout à fait. Alors, les petites nuances qu'il a apportées, ça a été au moment où Israël a attaqué le Liban. Et ça tient à la place particulière du Liban, justement, je vais en revenir. Tant qu'il s'agissait de Gaza, finalement, franchement, je ne pense pas que Macron ait été troublé par le génocide en cours. Hein. Mais c'est vrai que c'est dès lors. Alors pourquoi? Bah parce que on a toujours des fonctionnaires au Quai d'Orsay qui le tiraillent un petit peu de temps en temps. Hein, on a toujours des fonctionnaires qui lui envoient des notes. Et qui lui disent, c'est pas qu'ils aiment particulièrement les Palestiniens, mais qui lui disent, la France va quand même faire marquer sa différence. Hein. Elle peut pas s'aligner complètement, vous savez, on a des petits sursauts comme ça de temps en temps, et parce qu'elle risque de tout y perdre, et d'ailleurs, elle va rien gagner. Dans cette affaire, elle peut s'aligner sur les États-Unis, mais qu'est-ce qu'elle va gagner? Puisque de toute façon, Netanyahou, on n'a absolument rien à faire de la France, hein. Et de toute façon, s'il y a quelqu'un qui compte pour Netanyahou, c'est les États-Unis, et même, bon. Donc, du coup, des gens font valoir à Macron, dire, mais en fait, mais qu'est-ce qu'on a à gagner là-dedans? Donc, alors, il y a, je l'ai dit, les intérêts de l'impérialisme français d'une façon générale, puis aussi, il y a aussi l'Europe, le chariot de tête de l'Europe est un chariot qui est très pro-américain, très pro-sioniste, avec les Anglais, avec la Commission européenne, et l'Allemagne, etc. Mais donc, du coup, de temps en temps, il a des petites inflexions parce qu'il y a le Quai d'Orsay qui le rappelle à l'ordre. Mais autre chose, depuis l'attaque contre le Liban, là c'est plus compliqué, c'est un peu plus compliqué pour Macron, bien qu'il n'a pas poursuivi, hein, parce qu'actuellement, ce qui se passe au Liban est absolument incroyable en termes de destruction. On n'entend pas tellement Macron. Mais il y a des gens qui ont commencé à s'inquiéter en disant, Macron, mais on ne comprend pas, la France vient de perdre l'Afrique, hein, vient de se faire sortir d'Afrique en quelque sorte, d'Afrique subsaharienne, elle va se faire sortir des derniers petits îlots de francophonie, parce que le Liban est un pays qui compte beaucoup pour la francophonie, il faut le savoir. Hein. On a une francophonie qui est extrêmement active au Liban, on a souvent d'ailleurs des lauréats de la francophonie qui sont libanais, etc. Enfin, donc c'est toujours cette idée que la France va perdre un de ses derniers points d'appui. N'oublions pas que c'est la France qui a créé le Liban en 1920. C'est la France qui a arraché le Liban à la Grande Syrie et qui a créé le Liban. Et c'est un petit peu sa créature. Donc elle voit Israël qui est en train de malmener sa créature. Parce que la France pense toujours que le Liban n'a jamais rompu avec son empire colonial, la France. Hein. Et donc, il va un petit peu fort, Netanyahou. Mais on voit bien que finalement... Alors, c'est pas allé très loin, il a juste évoqué le fait que la France pourrait cesser les livraisons d'armes, et il s'est dédié ensuite en disant que c'est pas ce qu'il avait voulu dire, etc. C'était en off, c'était rapporté. Ça va pas très loin tout cela. Il a voulu dire simplement que voilà, il y a une différence, que je ne sais pas, pour essayer de préserver. Mais c'est vraiment de la poudre aux yeux.
Ces petits sursauts n'ont rien de structurel du coup en matière de pensée, que ce soit idéologique, politique ou stratégique. Tu fais aucun lien du coup entre les positionnements d'Emmanuel Macron, l'ambiance aussi du coup de la société civile française du coup sur les questions d'islamophobie, c'est quoi les liens que tu fais hein?
Alors oui, tu as tout à fait raison. Oui, c'est vrai. Alors si on aborde maintenant le dossier d'islamophobie. C'est évident que l'islamophobie est venue, et tu as parfaitement raison de le dire, est venue considérablement renforcer cette ambiance pro-israélienne aussi. Bien sûr, hein, c'est pas un hasard. Alors qu'auparavant, on aurait dû faire clairement la différence entre le terrorisme, comment le terrorisme international version Al-Qaïda, Daesh, etc., et ce qui se passe en Palestine, qui n'a absolument rien à voir avec ça, évidemment, hein, rien à voir avec le terrorisme international. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Nations Unies qui le disent aussi. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est évident que ce climat islamophobe terrible qui règne dans ce pays, alors après le 11 septembre,
Est-ce que c'est pas un espèce de volonté de clash des civilisations qu'il y a depuis Sarkozy, enfin depuis le poste 11 septembre, où quand Sarkozy avait commencé avec le ministère de l'immigration, toutes ces lois sur la burqa, sur l'islam qu'on commençait avec Sarkozy justement. Est-ce qu'il n'y a pas justement vraiment un changement de paradigme à ce moment-là?
Oui, tout à fait. Alors certains disent c'est un changement de paradigme, mais certains disent aussi c'est un retour
de la pensée. Un retour à la pensée coloniale. Ouais. Ouais.
Mais c'est vrai que, indiscutablement, parce qu'après le 11 septembre, on a quand même un Jacques Chirac qui ne suit pas forcément les États-Unis là-dessus. Hein. Donc, je dis, alors c'est vrai qu'après, avec Sarkozy, Sarkozy qui va enfourcher, je pense que le 11 septembre, les attentats auraient pu très bien être à l'écart, rester à l'écart de la décision française en matière de Moyen-Orient, enfin de dossier palestinien, etc. Et je pense que c'est peut-être davantage pour moi, c'est pas ce qui a conditionné l'évolution de la politique française, mais ce qui va servir de prétexte. Vous voyez, je pense qu'il y a quand même cet atlantisme, de retour de l'atlantisme, qui est déterminant dans le soutien renouvelé au sionisme. Mais c'est vrai que le climat islamophobe et la guerre de civilisation qui a été développée par les néoconservateurs américains, eh bien, va évidemment empoisonner l'atmosphère. Mais aussi, c'est pour certains, on dit que c'est un retour de l'impensé, parce qu'en fait, ça a toujours été le cas. Si on va aux sources de l'islamophobie française, ils n'ont pas attendu le 11 septembre. Hein. Je veux dire, déjà à l'époque après dans l'après-Seconde Guerre mondiale, juste une petite anecdote, on a le président Vincent Auriol, qui est le président qui est en France en 1947, au moment de la création d'Israël, et le président Vincent Auriol qui écrit ses mémoires, hein, que j'ai eu l'occasion de lire, parce qu'elles sont intéressantes. Or, c'est un président qui se veut... tout le monde est de gauche après la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir, personne n'est de droite. Hein. La droite est complètement déconsidérée, etc. Bref. Et Vincent Auriol, qui donc est aussi ami avec Léon Blum, etc., même s'il n'est pas de la SFIO vraiment, mais qui est très sioniste, Vincent Auriol, c'est lui qui va imposer. Et Vincent Auriol, dans son journal du septennat, il y a un moment, il reçoit des députés musulmans. C'était les députés d'Algérie, vous savez, ce qu'on appelait les Béni Oui-Oui. Hein, les Béni Oui-Oui, parce qu'on disait ils font partie de la tribu des Béni Oui-Oui, c'est-à-dire qu'il dit toujours oui au colonialisme français. Hein. Donc ce n'est pas des foudres de guerre, ce n'est pas des gens méchants, très très modérés, hein, qui sont bien habillés en costume et tout, et ils sont à l'Assemblée, puis ils sont là, ils disent toujours oui. Mais là, quand même, avec ce qui se passe en Palestine, même eux, vous voyez ce que je veux dire, ils sont terrifiés par ce qui se passe en Palestine en 1947. Et puis ils disent, voilà, ils décident de faire une petite délégation auprès de Vincent Auriol pour lui dire, écoutez, ils ne demandent pas à ce que la France soit pro-palestinien, pro-arabe. Ils disent juste, est-ce que la France pourrait simplement ne plus livrer d'armes, mais aux deux camps, hein, un embargo sur les armes sur les deux camps. D'accord, ce qui est un minimum, quoi, que la France ne s'implique pas à ce point. Et Vincent Auriol les reçoit et il note dans son carnet du septennat, dans son cahier du septennat, il dit j'ai reçu les députés musulmans et il donne leur nom et il ajoute ils m'apparaissent comme de sacrés fanatiques. Parce qu'ils ont juste demandé à ce que la France ne livre pas d'armes. Ça montre déjà, c'est incroyable. Je veux dire, et j'ai l'impression qu'en fait, cette impensée et cette islamophobie n'a jamais cessé, mais c'est vrai que le 11 septembre va lui permettre un renouveau. Mais c'est pas la cause. À mon avis, c'est pas la cause. Hein.
Sûr,
c'est pas
sûr.
Parce qu'il y a le 11 septembre qu'il y a ça. Ce serait. Non, je pense que c'était ailleurs et je pense que les terroristes qui ont fait le coup du 11 septembre, certes, ça a influé, hein, mais c'est pas la cause de ce repositionnement en faveur des États-Unis. Je dis parce que Chirac de Villepin s'était opposé à la Seconde Guerre du Golfe, hein, à l'aventure américaine en Irak, à l'agression contre l'Irak en 2003. Et voilà. Et Sarkozy, s'il le fait, il va servir. Alors c'est sûr qu'il va avoir les attentats à Paris, etc. Mais encore une fois, tout le monde voit bien que ces attentats enfin les hommes politiques. Alors peut-être que pour le public français qui n'est pas très au courant, etc., mais les politiques français, d'ailleurs il fut un temps où ils faisaient la différence. Dans les années 70, il y avait aussi pas mal d'attentats, mais le gouvernement français faisait bien la différence entre ces attentats et puis la position française sur le dossier de la Palestine, voyez-vous. Et on n'était pas forcé de linker les deux.
Ouais, du coup, là, c'est pas vraiment une confusion là qu'il y a, c'est une vraie pensée.
Oui, c'est une volonté. C'est une ambiance. Ouais. Alors, cette ambiance, si vous me permettez, évidemment, elle va servir. Alors, le CRI va servir de cela. Alors, ça, c'est pour l'opinion publique. Pour travailler, vous savez, l'expression, une opinion, ça se travaille. Hein, c'est le titre d'un bouquin de Vidal, Dominique Vidal, et c'est vrai, une opinion, ça se travaille. Donc du coup, l'opinion française a été vraiment, vraiment travaillée dans le sens, et on peut lui faire penser ce qu'on veut.
Justement, Youssef, en parlant de faire penser ce qu'on veut à l'opinion française, les médias clairement jouent un rôle dedans. Et comment toi tu expliques cette manière d'être sioniste en fait?
Ouais. De la part des médias.
Ouais, là, qui est incontestable. Il y a eu des dizaines d'émissions ces derniers temps là, l'année en cours. Et comment t'expliques, toi, du coup, ce positionnement?
On ne va pas les citer, du coup, les médias, les grands médias qui ont été pointés du doigt là, dernièrement.
Franchement, il faudrait plutôt citer ceux qui ne participent pas à cette purée.
C'est plutôt ça.
Ouais. Ils sont importants. On devrait citer, les deux, trois ou même quatre grands médias. Je parle des grands médias, je ne parle pas des petits médias, évidemment. Des médias sociaux, etc. Mais oui, c'est effroyable. Alors, d'abord, parce que on a, moi, j'assimile ça aussi, j'attribue cela à l'ambiance politique française. Nous sommes donc dans un pays impérialiste qui connaît une phase pré-fasciste. Mais je dis bien pré-fasciste, je pèse mes mots. Hein. Je dis absolument, est aussi lié à la terrible offensive contre toute la liberté fondamentale dans ce pays. Une offensive qui est absolument incroyable, je veux dire qui est sidérante, une offensive même qui va inquiéter des juges antiterroristes, comme le dernier Trudovic, le juge antiterroriste. Ouais, j'ai oublié son nom, excusez-moi, il a un nom breton là. Qui effectivement s'indigne de la façon dont on utilise des lois, les lois antiterroristes. Il faut quand même savoir une chose, c'est que maintenant, des gens sont poursuivis au titre d'apologie du terrorisme, avec une évolution très grave, c'est qu'auparavant, c'était ce qu'on appelait des délits de presse. C'est ce qu'on appelait des délits de presse. Hein. Et évidemment, les risques encourus étaient quand même limités. Eh bien, ces délits de presse sont devenus maintenant apologie du terrorisme. Hein? Quand on considère que quelqu'un écrit quelque chose qui va dans le sens de la justification de ce que font les organisations palestiniennes, hein, de 7 octobre dernier, on considère que c'est de l'apologie du terrorisme. Auparavant, c'était un délit de presse, simplement. Et cela est confié donc à des juges. Donc des juges vont, il faut bien avoir ça en tête, des juges vont juger ces personnes au titre d'apologie du terrorisme. Et là, les peines sont beaucoup plus graves. Mais ce sont des mêmes juges qui, normalement, sont des juges de correctionnel, qui sont habitués à juger des affaires de vol de scooter ou de choses comme ça. Donc on a des juges, alors c'est pas les déqualifiés que de dire ça, mais c'est des juges qui, normalement, sont astreints à des délits de droit commun. Vraiment anodin, enfin anodin, pas anodin, mais enfin vraiment beaucoup, beaucoup moins grave, hein, des vols, des choses comme ça, qui maintenant vont juger les gens pour apologie du terrorisme. Et ça, et dans une cour correctionnelle, mais c'est absolument incroyable. Et avec des peines. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement grave. C'est un élément de cette préfascisation, mais il y en a beaucoup d'autres au niveau de. On le voit, au niveau social, sur les retraites, sur tout cela. On est dans une phase. Vraiment, vraiment pré-fasciste. Et donc, il est logique que dans cette phase pré-fasciste, le soutien à l'État d'Israël soit de plus en plus important. Vous voyez, ça fait partie du grand pack, de ce qu'on appelle un pack idéologique. Hein. Le soutien à Israël fait partie d'une sorte de grand pack idéologique. La violence qu'il y a, par exemple, contre des personnalités de gauche comme Mélenchon, c'est quelque chose d'inimaginable. Moi, je le dis, je suis très inquiet, ça peut très mal se terminer. Hein. Je suis sérieux. On a vu ça dans le passé. La violence débridée de médias comme BFM, comme tout cela, etc., est extrêmement grave. On n'a jamais vu cela. Avant, on avait des oppositions politiques. On se faisait pas forcément des courbettes. Hein. Ça y allait. Mais là, je dis bien, il y a des appels au meurtre, hein, quasiment. Hein. Et cela, et c'est le résultat de cette ambiance pré-fasciste. Quant à l'opinion, qu'on ne vienne pas me dire que c'est l'opinion qui dit ou qui pense. L'opinion pense, je suis désolé, hein, l'opinion pense et dit rien du tout. Elle pense ce qu'on lui dit de penser. Mais c'est ça qui est absolument terrible. C'est que y a un tel marteau, un tel matraquage idéologique que je crois que l'opinion même. Que les gens ne peuvent même pas se faire leur opinion, comme on dit. Hein. Quand on vous répète à longueur de journée sur de je ne sais combien de médias que les musulmans sont un danger absolu, que, etc., je suis désolé, les gens finissent par le dire bien sûr, le croire et surtout le véhiculer, et malheureusement de passer à l'acte. On voit tous les actes racistes. Alors évidemment que ça réveille aussi il y a une islamophobie, mais aussi un antisémitisme. C'est vrai qu'il y a aussi un antisémitisme, bien évidemment. Je veux dire, parce que le racisme, c'est un tout, c'est pas, on ne peut pas l'isoler, hein, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont les forces les plus réactionnaires, qui réveillent tout cela, en France, par exemple, concernant l'antisémitisme, et si on revient à la Seconde Guerre mondiale, on a eu une dépétainisation. Mais on a eu une défaite du pétainisme, mais on n'a pas eu une dépétinisation idéologique, en vérité. Hein, ça, c'est très important à comprendre. On a juste eu une défaite des pétainistes, de la collaboration, des collaborateurs, mais il n'y a pas eu l'accompagnement idéologique qu'il aurait dû y avoir. Hein. Et par rapport au colonialisme, c'est pareil. Il y a eu des défaites coloniales, mais finalement, on se dit, ça, c'est pas de chance, hein. Mais bon, on aurait pu rester encore. Mais même dans les manuels scolaires, le colonialisme est présenté, certes, comme quelque chose que, on n'est plus colonialiste, il y a tout ça, mais on n'explique pas en quoi le colonialisme est un problème. Et je sais, donc, prof d'histoire géo, je peux vous dire, je connais tous les programmes scolaires, collège, lycée, ce que vous voulez, et même à la fac, parce qu'à la fac aussi, il y a à boire et à manger.
Donc, on avait deux questions, il nous reste quasiment une minute, donc là, il y en a une que je vais pas te dire, mais on avait une question sur le fait, du coup, finalement, la politique française, tu l'as un peu dit, du coup, directement et indirectement, sur la question palestinienne, elle est construite, j'allais dire, essentiellement sur une base idéologique, qui est la question colonialiste, du coup, que toi, tu poses depuis tout à l'heure. Et du coup, aussi, du coup, le lien avec la tension, les sujets d'islamophobie en France, avec aussi des calculs électoraux, certes. Du coup, peut-être la dernière question, c'est, selon toi, du coup, quel avenir se dessine, du coup, pour la lutte palestinienne, que ce soit en France ou à l'échelle internationale. Et du coup, là, c'est moi, le prof d'histoire, je te donne même pas une minute pour répondre à cette question.
Alors, même pas, oui. Alors, juste une seconde, j'ai quand même oublié de vous dire que ce réveil colonial, il concerne aussi d'autres possessions, hein, la Kanaky, la Martinique.
Oui, complètement.
Donc, c'est vraiment très important de comprendre c'est pas étonnant qu'il y ait tout ce pacte. Hein. Ce sont les mêmes qui effectivement, vont soutenir, etc. Alors, l'évolution de la question de Palestine, c'est ça ?
Oui, comment se dessine la lutte palestinienne, que ce soit en France ou à l'échelle internationale, selon toi ?
Alors, au niveau français, je ne dirais qu'une chose, il faut tenir bon. Il faut tenir bon, il faut tenir bon, en dépit de tout, soutenir les personnes qui sont poursuivies, parce que, évidemment, dans l'immense majorité des cas, il ne s'agit pas du tout d'apologie de terrorisme, on est bien d'accord, c'est vraiment scandaleux. Dénoncer cette instrumentalisation du droit. Hein. Bien sûr, le terrorisme, c'est quelque chose de grave et autre, et on ne peut pas impunément et de façon aussi farfelue qualifier quelqu'un terroriste. On est vraiment dans un scénario orwellien, hein, vraiment orwellien. Et ça, c'est une chose. Donc il faut continuer, il faut par tous les moyens possibles, alors BDS, etc., on les connaît, hein, et ne jamais s'arrêter. Ne jamais s'arrêter de parler de la Palestine, c'est un slogan. Hein. Never stop talking about Palestine. Hein. Ouais. Et ça, c'est une chose. Vraiment, vraiment, tout faire parce que les amis d'abord.
Merci beaucoup. Je suis désolé, Youssef.
Oui, dis-moi. Oui, les sommes justes. Et au plan international, c'est la résistance. On est dans une guerre d'attrition, une guerre d'usure, et qui va durer longtemps. Et personnellement, je pense que cette lutte qui va être terrible, qui va être mortelle, finira par l'emporter quand même. J'en suis convaincu.
Merci beaucoup,
Youssef.
Vraiment,
c'était beaucoup, c'était passionnant. On devait passer des petites musiques, c'était tellement passionnant qu'on t'a pas coupé.
Merci encore à toi. Et puis on te réinvitera
On te réinvitera très bientôt.
Merci à toi. Merci à tous les auditeurs et auditrices de Visa Palestine.
Merci. Au revoir, belle soirée.
Au revoir.
Bonne soirée. Au revoir.